Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12h. Pascal Praud, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Plus d'un millier de vols annulés dans toute la France aujourd'hui. Des avions cloués au sol et des voyageurs parfois prévenus au dernier moment. Turbulence aussi à la Fédération Française de Football. Après les accusations de harcèlement sexuel visant Noël Le Graët, le ministère des Sports lance un audit. Et puis le ballon côté parquet. Cette fois, l'équipe de France de basket vise une place en finale de l'Euro cet après-midi.
RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL Midi, un jour chez vous en France.
Et aujourd'hui, on part pour le circuit du Castellet où 70 000 fans de moto sont attendus pour les 100 ans du Bol d'Or. À midi 20, RTL Midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Quotidien féminin aujourd'hui avec cette question. Le soutien-gorge est-il en train de disparaître? On va parler... nos bras. Thierry Lhermitte sera avec nous à 12h40, ambassadeur de la Fondation pour la Recherche Médicale qui lance aujourd'hui sa campagne d'appel aux dons pour lutter contre la maladie d'Alzheimer. 900 000 Français en sont atteints. Enfin, juste avant 13h, LVT Midi, les adieux de Serge Lama. Le chanteur s'est confié à Stephen Bellery. Aimé, son nouvel album, attendu dans 3 semaines, sera le dernier. La question du jour sur RTL.fr. Comme le propose une mission du Sénat, faut-il interdire la consommation d'alcool lors de la chasse?
Ça, c'est un sujet qui fera réagir évidemment nos auditeurs. J'ajoute une question qui revient de plus en plus. Faut-il boycotter la Coupe du Monde au Qatar? Et puis les réseaux sociaux ont-ils changé la société? Voilà les thèmes à 13h.
Avant ça, la météo avec vous, Claire Delorme, bonjour.
Bonjour Céline, bonjour
en
à tous.
En un mot, cet après-midi, plus de soleil.
Exactement, surtout à l'ouest, encore un petit peu d'averses et de nuages pour le quart nord-est, mais aussi pour les Pyrénées et des températures en nette baisse.
Merci Claire, météo complète à la fin du journal.
RTL Midi.
Des voyageurs désemparés. Plus d'un millier de vols ont été annulés aujourd'hui dans toute la France en raison d'une grève des aiguilleurs du ciel qui réclament de meilleurs salaires et plus d'embauches. Et au-delà des vols dont l'annulation avait été prévue dès hier, il y a aujourd'hui, Antoine Cavallero, d'autres avions qui restent cloués au sol, notamment à Roissy.
Absolument, de nouveaux vols qui s'affichent en rouge sur le grand panneau au-dessus de moi et forcément des passagers à fleur de peau. Philippe part en Jordanie avec des amis comme lui à la retraite.
Donc on profite de ça pour essayer de partir en vacances quand les autres sont revenus. Et puis manque de peau, aujourd'hui on tombe sur la période de grève, un peu pris au dépourvu. En plus nous faisons un circuit, donc on perd une journée de circuit. Enfin, c'est une addition de beaucoup de petits détails qui nous embêtent énormément.
Et puis il y a tous ceux qui travaillent ou qui veulent rentrer chez eux. Charline doit aller à Biarritz, plus aucun vol disponible.
J'essaye de trouver une solution, les trains sont pleins, donc je vais prendre un Blablacar probablement. A priori 9 heures de route au moins je pense, je suis fatiguée.
Beaucoup de fatigue sur les visages et de plus en plus de voyageurs devant les comptoirs des compagnies pour réclamer des remboursements ou au moins une solution pour arriver à destination.
Antoine Cavallero en direct de Roissy pour RTL. Et notez qu'un autre préavis de grève est déposé pour 3 jours cette fois à la fin du mois, du 28 au 30 septembre.
Et si vous avez réservé un hôtel, parfois votre hôtel n'est pas remboursé. Le ministère des Sports engage une mission d'audit et de contrôle au sein de la Fédération française de football.
Et cela après les révélations du magazine SoFoot pointant plusieurs dysfonctionnements et accusant Noël Le Graët de harcèlement sexuel. Le président de la FFF qui était reçu ce matin au ministère des Sports avec sa directrice générale, rendez-vous en forme de recadrage.
Et puis rebondissement dans l'affaire Amraoui, l'ex-coéquipière de la joueuse du Paris Saint-Germain, Aminata Diallo, est de retour en garde à vue.
Oui, elle avait déjà été entendue en novembre dernier dans l'enquête sur l'agression de Keira Amraoui par deux hommes cagoulés alors qu'elle rentrait d'un dîner. Aminata Diallo semblait depuis mise hors de cause. Mais ça, Guillaume Chesse, c'était avant sa nouvelle arrestation ce matin. Et toute l'affaire s'expliquerait par une rivalité sportive.
Oui, toutes les deux, milieu de terrain au PSG et en équipe de France, de quoi attiser leur rivalité. Ce scénario, pourtant écarté en novembre, est revenu en force ces derniers jours. Ce matin, selon nos informations, les enquêteurs ont la quasi-certitude qu'Aminata Diallo a monté une équipe pour nuire à son ancienne coéquipière. Et ce, grâce aux auditions de 4 hommes placés en garde à vue. Dans cette affaire, il me semble que l'on a désormais tout le monde, confie une source proche du dossier. Tout le monde, c'est-à-dire les deux agresseurs qui ont reconnu leur présence sur place le soir du passage à tabac de Kaira Amraoui, mais aussi deux hommes qui auraient fait office d'intermédiaires pour Aminata Diallo. La joueuse, elle, a toujours nié son implication dans l'agression de son ex-coéquipière. Il lui reste 2 heures pour s'expliquer face aux enquêteurs de la brigade de répression du banditisme de la PJ de Versailles. Elle sera ensuite déférée devant un juge d'instruction qui décidera des suites judiciaires.
Guillaume Chaise du service police-justice de RTL. Et au milieu de tout ça, les appels à boycotter le mondial de foot au Qatar se multiplient. On en parle à Presse Journal avec le président d'Amnesty International France.
Elle frôle déjà les 6% sur les 12 derniers mois, bien sûr. Et l'inflation va continuer d'augmenter dans les prochains mois.
Oui, la hausse des prix va se poursuivre avec un pic qui devrait être atteint d'ici début 2023, selon François Villeroy de Galo, le gouverneur de la Banque de France, qui était ce matin l'invité de RTL. Il veut toutefois rassurer les épargnants. Le taux de rémunération du livret A, le placement préféré des Français, devrait lui aussi augmenter.
Je ne peux pas vous dire de chiffres, parce que ça dépendra de la moyenne de l'inflation et des taux d'intérêt d'ici la fin de l'année. Nous ferons le calcul au mois de janvier. On est passé de 0,5% en début d'année à 2% aujourd'hui. Oui. Il y aura sans doute un nouveau relèvement en février de l'an prochain.
Donc c'est envisageable.
Je crois que la Banque de France tient un discours de lucidité, mais pas un discours d'anxiété. Nous avons des règles, elles sont faites pour être appliquées. Ça vaut aussi sur le livret A. Et l'économie française a les moyens de surmonter les risques de la période actuelle.
François Villeroy de Galo, invité d'Yves Calvi ce matin sur RTL. En Ukraine, quelques 450 tombes ont été découvertes près d'Izioum, ville récemment reprise aux forces russes qui sont accusées par Kiev d'avoir procédé à de nombreuses exactions dans les territoires qu'elles occupent. Les Nations Unies veulent envoyer une équipe sur place. Et puis à Londres, la file d'attente pour aller se recueillir devant le cercueil d'Elisabeth II n'est plus accessible actuellement, fermée en raison de la trop forte affluence.
RTL Midi. L'équipe de France de basket vise une place en finale de l'Euro cet après-midi.
Et ce sera face à la Pologne à 17h15. Les Français qui se sont fait peur souvent depuis le début du tournoi avec des qualifications à l'arraché ne veulent pas laisser passer leur chance. À l'instar du pivot Rudy Gobert qui n'a qu'un objectif en tête.
Pour moi c'est vraiment un médaille d'or. C'est ça l'objectif. La joie de la médaille d'or, c'est ce qu'on vise depuis la fin des JO. Je me suis dit qu'il fallait revenir et être champion d'Europe. Donc je pense qu'on a une équipe, on a des cœurs de gagnants. On vient pas là pour rien, on vient pour aussi construire quelque chose. Et on a assez de talent pour prétendre à la plus haute marche. On le sent tous en fait. Quand ces moments-là ils arrivent, pour moi il n'y a rien d'autre auquel je pense que la médaille d'or.
Rudy Gobert, cœur de gagnant au micro RTL de Jean-Michel Rascol. France-Pologne, c'est donc à 17h15 et en clair sur W9. La météo, on vous retrouve comme promis Claire Delorme pour un après-midi avec plus de lumière.
Exactement, et ça se passera surtout à l'ouest. Alors autant c'était très nuageux en matinée, autant le soleil va faire davantage d'apparitions cet après-midi, surtout l'arc atlantique, mais aussi vers la Bretagne, la Normandie, en investissant vers les pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Il fera également encore très beau en Méditerranée, mais avec beaucoup de vent entre Corse et continent. 100 km/h, autant vous dire que ça va souffler. Là où ça restera encore un petit peu instable et voire couvert, eh bien ça sera sur un large quart nord-est, mais aussi au niveau des Pyrénées où ça restera quand même bien bouché. Pour les températures, eh bien elles sont en nette baisse hein, par rapport aux jours précédents. Elles peinent même à atteindre les 16 à 21 degrés sur une large moitié nord, 22 à 26 degrés sur la moitié sud, mais tout de même on conserve pas loin des 30 degrés vers la Grande Bleue.
Merci beaucoup Claire.
RTL Midi, un jour chez vous.
RTL Midi, effectivement, un jour chez vous, chaque jour, l'info plus près de chez vous en France.
Avec nos correspondants qui quadrillent effectivement le pays. Aujourd'hui, direction le Castellet dans le Var. Bonjour Hugo Hamelin.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Hugo, vous vouliez nous parler du Bol d'Or, course d'endurance moto, on l'entend, course d'endurance de 24 heures sur le circuit Paul Ricard. Course mythique aussi qui fête ce week-end ses 100 ans.
Oui, pour marquer le coup, l'organisation ressort ses machines à voyager dans le temps. 20 motos mythiques de toutes les époques qui sont imposées au Bol d'Or, comme la Honda CB750 rouge et blanche, vainqueur en 1969. Première moto moderne, finalement, après 9 ans d'interruption de la course. Il y a aussi d'autres modèles d'avant-guerre, quand les japonaises ne faisaient pas encore la loi, quand les françaises rivalisaient. Écoutez les explications de Christophe Guem, rédacteur en chef de Moto Revue Classique.
Des marques françaises se sont imposées au Bol d'Or dans la période 20-30. Alors là, on a devant nous une Jonghi 350 monocylindre, une Terreau 350 aussi. Et la particularité, c'est qu'à l'époque, les pilotes étaient seuls pendant 24 heures. Aujourd'hui, ils sont trois. Ça allait beaucoup moins vite. Enfin, il fallait quand même une certaine condition aussi.
Trois pilotes par équipe donc aujourd'hui et plus de 500 pilotes attendus ici ce week-end.
Pour que la course se déroule bien, il y aura également 450 commissaires de course et commissaires de stand. Ce sont des bénévoles passionnés venus des quatre coins de France qui dorment à quelques mètres de la piste, Hugo.
Exactement, Pascal. Ce sont des fadas du guidon, des décibels toute la nuit, dans l'odeur des pots d'échappement. Ils adorent ça. 40 000 personnes vont ainsi dormir sur place, comme Van, Jean-Claude et Salva, qui sont descendus de Besançon, en moto, bien sûr.
Je fais ça depuis 25 ans, et je le fais toujours avec le même plaisir.
C'est le bruit, c'est les départs. Tu vois tous ces grands pilotes, et ça, c'est un excitant incroyable. Quoi. Le premier Boldo que j'ai fait, c'était en 70.
On est là pour l'ambiance, on est là pour pas dormir. On fait des belles rencontres, enfin, c'est un tout en fait. Au moins une fois dans sa vie, ça a à faire.
Une communauté de motards un petit peu inquiète pour l'avenir. Hein. Leur grande phobie, c'est de voir le bol d'or devenir une course de moto électrique. Et selon eux, ça perdrait tout son charme.
Mais ce serait peut-être plus facile de dormir. Des motos et du rock aussi ce week-end au Castellet. L'un des anciens guitaristes de Johnny Hallyday, Yarol Poupeau, donnera un concert demain soir sur place. Johnny qui, lui, avait donné le départ du bol d'or en 74 et en Kawasaki Z900, Hugo.
Ouais, exactement, un modèle exposé à part, c'est la pièce maîtresse de l'exposition, avec une moto multicolore. Hein, donc il a donné le départ, il a fait l'inauguration. Écoutez, Sophie Casanova, c'est l'organisatrice du bol d'or.
Alors Johnny l'a pas couru, mais il a assisté au bol d'or en 1974. Il avait fait deux tours de piste avant le départ du bol d'or et il était resté tout le week-end. Il devait donner le départ et puis finalement il était resté jusqu'au podium, jusqu'à l'arrivée. Et la course lui avait beaucoup plu, à tel point qu'il a créé une chanson qui s'appelle Le bol d'or, qu'on a ressorti pour l'occasion.
Immédiatement qui...
La ronde des motos, c'est pas le...
Dont on se souvient lorsqu'on évoque Johnny Hallyday. C'est les années 70, c'était pas sa meilleure période toujours.
Merci beaucoup Hugo Hamelin.
Merci. Vroom, vroom. Oui, bah, comme vous dites. Hein. Mais vous avez des bouchons d'oreilles dans ces cas-là?
Des casques anti-bruit, carrément.
Parce que, non, c'est pas simple. Vous le savez, chaque jour, après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. Dans un instant, c'est le débat qui monte. Faut-il boycotter la Coupe du Monde au Qatar? Est-ce que, par exemple, vous allez la regarder, vous, auditeurs qui nous écoutez, Vincent Lindon, Eric Cantona, disent oui. On en parle avec le président d'Amnesty International France dans un instant.
Céline Landreau, Pascal Pro. RTL midi jusqu'à 13h. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
Je ne regarderai pas la Coupe du Monde. C'est incroyable. La même année, il y a des Jeux d'hiver dans un pays où il n'y a pas de neige. Et après, il y a des Jeux d'été dans un pays où il fait 60 degrés à l'ombre, où ils ont construit 10, 12 stades réfrigérés. Et en plus, un non-respect des droits de l'homme. C'est incroyable. Ça peut venir que des joueurs. Un État n'a pas le droit de demander, ou à Didier Deschamps, je vous demande de boycotter la Coupe du Monde. Mais un joueur, il est libre, c'est un artiste. Il peut, lui.
L'appel d'un autre artiste, l'acteur Vincent Lindon, à 65 jours maintenant de l'ouverture de la Coupe du Monde de football au Qatar. Ce sera le 20 novembre. De nombreuses voix s'élèvent pour appeler au boycott de la compétition. D'anciens footballeurs aussi, comme Philippe Lahm, champion du monde allemand, ou l'emblématique Eric Cantona. Alors, pour comprendre ce qui se joue, nous sommes avec Jean-Claude Samouillet, président d'Amnesty International France. Bonjour.
Bonjour.
Il y a bien sûr le volet écologique, les stades climatisés dont on a beaucoup parlé, mais vous interpellez aussi, vous, sur les conditions des travailleurs immigrés au Qatar.
Oui, nous dénonçons les conditions qui sont faites aux travailleurs migrants au Qatar, hein, qui sont plus de 2 millions et qui viennent principalement du sud-est asiatique, mais également d'Afrique subsaharienne. Et ceci depuis le début, hein, depuis 2010. Nous dénonçons que les personnes soient obligées de payer des frais prohibitifs de recrutement à des agences de recrutement. Nous dénonçons les vols de salaire. Nous dénonçons la kafala, hein, qui fait que la personne dépend de son employeur, qui lui confisque son passeport et la personne ne peut pas changer d'employeur. Ne peut pas changer d'emploi, ne peut pas rentrer dans son pays d'origine comme elle l'entend. Nous dénonçons les heures de travail excessives. Nous avons documenté dans un rapport sur les salariés d'entreprises de gardiennage que ces personnes travaillaient 84 heures par semaine, sans jour de pause, sans pause au cours de la journée, par des chaleurs excessives, sans protection. Nous dénonçons le sort réservé aux travailleurs domestiques, hein, les violences, la violence physique, les violences verbales, mais également les violences sexuelles. Nous dénonçons sont le travail forcé, sous contrainte dans un certain nombre d'entreprises, la discrimination salariale aussi. Un gardien qui vient d'Ouganda touche 1200 riyals par mois, quelqu'un qui vient des Philippines 1500, un Tunisien 1700, donc il y a la discrimination au niveau des salaires, et puis il y a des milliers de blessés et des milliers de morts. Les enquêtes ne sont pas ouvertes, les corps sont renvoyés aux familles qui doivent payer le transport des corps avec une simple explication, mort naturelle. Alors qu'on sait que ce sont des jeunes, monsieur, des hommes plutôt jeunes, et on sait qu'il y a une visite médicale à l'embauche, donc on ne comprend pas ce qui se passe.
Monsieur Samouillet, vous êtes président d'Amnesty International, je le rappelle, France, disons-le, moi j'ai lu toutes les enquêtes journalistiques, elles vont toutes dans le même sens. Ce qu'on lit est effrayant. Des gens qui sont payés 300 euros par mois, des gens qui sont entassés dans du préfabriqué à 30, 40, 50 dans très peu de mètres carrés, des conditions abominables, effectivement des morts, et je vous interrogerai si on sait précisément le nombre de morts, mais on est plus, d'ailleurs ce ne sont pas des travailleurs quand on lit ces enquêtes, ce sont des esclaves véritablement, et on se dit effectivement, il y a quelque chose d'absolument effrayant dans la construction de ces stades et dans la préparation de cette Coupe du Monde.
Absolument, absolument. Les travailleurs sont quasiment en situation de travail forcé pour la plupart. Leurs droits les plus élémentaires ne sont pas respectés.
Il y a une forme d'hypocrisie parce que, évidemment, c'est très difficile pour les joueurs de parler. Moi, je les connais bien, les footballeurs. C'est compliqué de dire je vais pas y aller. C'est compliqué pour Didier Deschamps. C'est compliqué pour le président de la République parce qu'on a des intérêts avec le Qatar, des intérêts importants. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire?
Nous, Amnesty International, nous ne demandons pas le boycott de cette Coupe du Monde. Nous, au contraire, notre stratégie, c'est plutôt de profiter de cet événement pour mettre un coup de projecteur sur l'arrière-boutique. Hein. On est en pleine situation de sport washing. Hein. Le Qatar veut se faire une virginité, veut dorer son image. Et nous disons, mais attention, derrière cette image, derrière cette façade, voilà ce qui se passe. Il y a des morts, il y a des gens qui sont exploités, il y a des gens dont les droits ne sont pas respectés. Donc nous,
ça notre stratégie, Amnesty, je lis les enquêtes journalistiques, ça va au-delà même de ce que vous dites. Hein.
Oui, alors, pour répondre à votre première question, nous n'appelons pas au boycott. Au contraire, nous voulons en profiter de cet événement pour dire ce qui se passe réellement au Qatar.
Mais alors, si on n'appelle pas au boycott, qu'est-ce que vous demandez? Des enquêtes indépendantes pour que toute la lumière soit faite sur le sujet?
Alors, nous demandons des enquêtes indépendantes, nous demandons au Qatar, mais également à la FIFA, hein, qui est une entreprise commerciale, donc qui a une responsabilité selon les principes directeurs de l'ONU, nous demandons qu'il y ait l'établissement des responsabilités, nous demandons réparation aux victimes et aux familles des victimes, et nous demandons à la FIFA qu'elle dote un fonds de 440 millions de dollars, qui correspond à peu près aux sommes qui seront distribuées aux équipes qui participeront à cette Coupe du Monde, pour indemniser les victimes et les familles des victimes. Et puis, au-delà de ça, nous demandons dans le futur, très proche bien sûr, que les événements de cette importance fassent l'objet de garanties crédibles en matière de respect des droits humains, de non-discrimination, de liberté d'expression, de droit de manifester, de droit syndical, de respect du droit du travail. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut vraiment qu'il y ait un virage à 180 degrés.
Merci monsieur Samouillet. On ne va pas faire d'angélisme. Bien sûr que lorsque les athlètes sont allés en Russie ou à Pékin, il ne s'agissait pas toujours de démocratie. Mais j'ai l'impression là que c'est autre chose, et notamment ces conditions des ouvriers qui sont inhumaines, disons-le. Il est 12h20, dans un instant, RTL Midi, votre vie, on en parle tout de suite. Le soutien-gorge, alors évidemment, ça, on sort sur tous les sujets de l'actualité dans notre édition, oui ou non ? A tout de suite.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes à minute.
RTL Midi.
Votre vie.
RTL Midi, votre vie, car l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui,
j'ai pas forcément une grosse poitrine, donc je me dis pourquoi mettre un soutien-gorge si ça soutient pas grand-chose.
On est serré, on est engoncé. J'arrive jamais à trouver celui qui me convient, donc finalement.
C'est normal que ça tombe, que ça bouge, que ça pointe. C'est la nature, quoi.
Et du coup, dans quel contexte vous le gardez ?
Alors, essentiellement, quand même, quand je vais au travail. Parce que j'ai quand même une poitrine un petit peu ronde et je travaille dans un milieu d'hommes. Les regards peuvent être insistants.
Vous l'aurez compris avec ces témoignages recueillis pour RTL par Mathilde Pires, on parle du phénomène nos bras, le fait de ne pas porter de soutien-gorge, boosté par les confinements lors de la pandémie. Le phénomène continue de faire des adeptes au point que la France est en Europe, le pays...
Elle a bon dos, si j'ose dire, la pandémie. Sur tous les sujets aujourd'hui, c'est la pandémie qui a tout changé.
Ça a fait pas mal changer les choses, effectivement, Pascal. Et donc en France, on est dans le pays, en Europe, où l'on compte le plus de femmes qui ne portent plus de soutien-gorge, une sur 20, surtout des jeunes. Et pour en parler...
C'est pas beaucoup, une sur 20.
C'est pas énorme, non, mais c'est les jeunes surtout. On en parle avec Gala Avandi, auteur du livre Nos bras chez Flammarion. Bonjour.
Oui, bonjour.
D'abord, d'où ça vient ce phénomène Nos bras ?
Alors, le phénomène Nos bras, il existe depuis longtemps. En fait, il y a beaucoup de femmes qui pratiquent le Nos bras sans même le savoir, sans même le nommer. Mais on en entend beaucoup parler depuis une dizaine d'années parce qu'il y a la campagne Free the Nipple, qui veut dire pas de liberté téton en français, qui a pris beaucoup d'ampleur sur les réseaux sociaux en 2012.
Et c'est pour des motifs de confort ou il y a aussi un message politique là-dedans ?
En fait, c'est un tout. Moi par exemple, je ne porte pas de soutien-gorge pour des raisons de confort, mais aussi effectivement pour dénoncer l'hypersexualisation de la poitrine, pour me libérer de mes complexes. Voilà, il y a beaucoup de raisons différentes, et je pense que les femmes veulent juste aujourd'hui se réapproprier leur corps et qu'on arrête de leur dire ce qu'elles doivent faire.
Est-ce que vous diriez que la poitrine des femmes est encore tabou ?
Oui, bien sûr. Oui. Parce que il y a qu'à voir par exemple ce qui s'est passé, bon c'était il y a un petit moment maintenant, mais en 2004 avec Janet Jackson avec le Nipplegate à la finale du Super Bowl.
Le Nipplegate quand...
Oui.
Qu'est-ce donc, que en fait, c'est le Nipplegate ?
En fait, c'est un événement, un incident, comme ils appellent ça, qui a eu lieu donc en 2004, pendant la finale du Super Bowl aux États-Unis. Et en fait, le sein de Janet Jackson a été dévoilé par accident à la télé. Et en fait, ça a fait scandale. Et elle a subi un lynchage médiatique derrière.
C'est arrivé à Sophie Marceau un jour aussi, dans le Festival de Cannes.
Tout à fait. Tout à fait. Et Anne-Claire Coudray aussi.
Je dirais pas que ça avait fait scandale. Ça avait été remarqué, bien sûr, commenté. Mais je dirais pas que ça avait fait scandale.
En fait, quoi qu'il en soit, on en parle. Ça fait toujours parler,
ah oui,
en bien
bah
ou en mal. La poitrine, elle fait, ça fait parler, ça c'est sûr.
On le disait tout à l'heure, c'est surtout les jeunes, les moins de 25 ans qui pratiquent le Nos bras. Est-ce qu'il y a une raison particulière à ça ? C'est une question de génération aussi ?
Alors moi, ce que je pense, c'est que on en entend beaucoup parler du phénomène Nos bras sur les réseaux sociaux, et donc forcément les jeunes ils sont très très présents, donc elles ont plus peut-être accès à cette information-là. Et puis je pense aussi que c'est peut-être parce que il y a une injonction quand même à la fermeté de la poitrine, et après par exemple des allaitements avec l'âge, etc., la poitrine peut avoir tendance à tomber, et on a encore c'est encore quelque chose qui est mal perçu, qu'on a du mal à accepter, donc voilà, on ose moins montrer sa poitrine quand elle correspond pas aux normes, voilà, de la demi-pomme bien ferme, bien remontée. Voilà.
Mais Madame Avandi, vous êtes très jeune, mais ce qui est étonnant, et je n'ai pas d'explication, et peut-être en avez-vous une, c'est que dans les années 80 sur les plages, toutes les femmes, ou beaucoup de femmes, une majorité de jeunes femmes en tout cas, étaient seins nus, faisaient du topless. Et aujourd'hui, plus personne sur les plages, ou rares sont les femmes qui font du topless. Pourquoi ?
C'est vrai. Alors moi, ce que je pense, c'est qu'il y a eu une diabolisation de la poitrine aussi par rapport aux... Les femmes ont très très peur du cancer du sein, et donc associent le fait d'être topless sur la plage avec le cancer du sein, ce qui n'est pas forcément lié, ce serait plutôt le cancer de la peau pour le coup. Donc je pense que voilà, il y a eu avec les campagnes d'Octobre Rose, etc., les femmes sont terrifiées par le cancer du sein, et donc voilà. Et en plus de ça, les femmes, les jeunes filles aujourd'hui ont peur du regard des autres. C'est aussi pour ça, en fait, vous parliez du confinement. Effectivement, les femmes ont arrêté, de plus en plus de femmes arrêtent de porter des soutiens-gorge depuis le confinement. Et pourquoi pendant le confinement ? Parce qu'elles étaient plus confrontées au regard des autres, en fait. Donc voilà, sur les plages, on n'ose plus montrer ses seins parce qu'on a peur du regard des autres. Il y a aussi beaucoup de femmes qui ont peur des agressions, etc.
Et
donc, ça peut s'expliquer comme ça.
On rappelle que le Nos bras, c'est pas de soutien-gorge, mais en revanche, c'est quand même avec un haut, un t-shirt.
Bien sûr.
C'était bien de le préciser. Merci beaucoup, Gala Avandi, auteur du livre Nos bras chez Flammarion.
Merci beaucoup. RTL Midi, votre vie est terminée. L'info revient dans quelques instants avec le journal de 12h30. Et on va revenir évidemment sur les turbulences au sein de la Fédération française de football. À tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, et merci de rester avec nous si vous êtes déjà à l'écoute de ce RTL Midi. Il est 12h31.
RTL Midi, le 12h30, Céline Landreau et Pascal Praud.
Et donc à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous, Céline Landreau.
Le ministère des Sports met la Fédération française de football sous surveillance et lance un audit après les accusations du magazine SoFoot visant notamment Noël Le Graët. Le Sénat veut mieux encadrer la chasse en interdisant l'alcool, stigmatisant, répondent les chasseurs. 13 ans que l'on attendait le retour des créatures bleues, Avatar revient en décembre, mais RTL a déjà pu voir les premières images. Après le journal, l'appel de Thierry Lhermitte pour financer la recherche contre Alzheimer, 900 000 Français en sont atteints. Et puis votre rendez-vous culture, elle était midi juste avant 13h. Aujourd'hui, les adieux de Serge Lama avec Aimé, son nouvel album attendu dans 3 semaines. Le monument de la chanson française tire sa révérence. La question du jour sur RTL.fr, comme le propose une mission du Sénat, faut-il interdire la consommation d'alcool lors de la chasse?
Et vous pourriez, chers auditeurs, revenir sur tous ces sujets entre 13h et 14h30. J'ajoute évidemment la Coupe du Monde au Qatar. Faut-il boycotter?
La météo à la fin du journal, mais déjà, Claire Delorme, un indice, il est jaune.
Jaune,
le soleil.
Bah, bien sûr. Alors surtout à l'ouest du pays, bon encore quelques
pas
nuages.
Pas l'apéritif.
Oui, c'est pour ça. J'avais confusion. Donc encore un petit peu de nuages vers le quart nord-est et les Pyrénées et des températures en nette baisse.
Merci Claire, à tout à l'heure.
Jusqu'à 13h. RTL Midi.
La Fédération française de football en pleine turbulence, le ministère des Sports hausse le ton, c'est une sorte de mise sous tutelle.
Oui, il a décidé d'engager une mission d'audit après les révélations du magazine SoFoot, pointant du doigt plusieurs dysfonctionnements et accusant Noël Le Graët de harcèlement sexuel. Le président de la Fédération était reçu ce matin au ministère avec Florence Ardouin, la directrice générale de la FFF, pour... un recadrage qui ne dit pas son nom, Nicolas Georgerot.
Oui, officiellement invité, je cite, pour un temps d'échange autour de plusieurs thématiques. Noël Le Graët et Florence Ardouin ont dû surtout s'expliquer sur les accusations et sur le climat interne à la Fédération française. Les deux dirigeants sont arrivés au ministère, chacun de leur côté. On évoque une réunion au ton constructif. Chacun a pu donner sa version des faits, nous dit-on. Noël Le Graët s'est notamment engagé à transmettre tous les rapports ayant trait à sa gouvernance. Philippe Diallo, vice-président délégué de la Fédération, rencontrera aussi prochainement Amélie Oudéa-Castéra. Il coordonne notamment les plans d'action pour le respect des normes éthiques à la Fédération. C'est donc un audit qui est lancé, dont le rapport, le bilan, pourrait être connu après la Coupe du Monde. Il y a une gradation, ce n'est pas une enquête administrative à proprement parler, mais le message est là, surveillance, vigilance et contrôle à 2 mois du Mondial. Et pour l'instant, en l'absence de preuves accablantes, le grand chambardement n'est pas envisagé.
Merci Nicolas Georgerot.
Football toujours, mais loin des terrains, la garde à vue des racketteurs présumés de Paul Pogba se poursuit.
Ils sont soupçonnés d'avoir voulu soutirer 13 millions d'euros aux champions du monde. Parmi eux, son frère, Mathias Pogba, et son implication directe dans l'affaire se précise, Thomas Proutot.
En effet, Mathias Pogba a reconnu 2 faits importants face aux enquêteurs. D'abord, il était bien présent à Turin en juillet, devant le centre d'entraînement de la Juventus, avec le groupe de racketteurs présumés. Selon lui, c'était pour mettre les choses au clair avec son frère sans plus de précision. Deuxièmement, c'est lui et lui seul qui a pris l'initiative des vidéos menaçantes diffusées fin août, vous vous souvenez, où il promettait des révélations sur Paul Pogba et Kylian Mbappé. D'après nos informations, il ne nie plus avoir eu un rôle dans la bande de racketteurs, mais il le minimise le plus possible.
Mathias Pogba n'est pas le seul en garde à vue, hein, Thomas. 4 autres hommes sont entendus et parmi eux, un individu dont le passé judiciaire est extrêmement lourd.
Oui, un homme condamné pour meurtre il y a quelques années, et c'est une information RTL, pour enlèvement et séquestration en relation avec une entreprise terroriste. On n'en sait pas plus à ce stade sur ce point. Ce suspect, 36 ans, avait acheté récemment des billets pour la Turquie. Il n'était pas en fuite, mais c'est par crainte de le voir filer que la police judiciaire a précipité les interpellations cette semaine. Les 4 hommes en garde à vue se renvoient la balle et les responsabilités se disent tous victimes d'un mystérieux commanditaire. Un 6e homme, lui, est en fuite et a réussi à gagner du bail.
Thomas Proutot du service police-justice de RTL. C'est bien une rivalité sportive qui serait à l'origine de l'agression de Keira Amraoui l'hiver dernier, et son ancienne coéquipière au PSG, Aminata Diallo, un temps mise hors de cause, pourrait en être à l'origine. Elle a été à nouveau arrêtée ce matin et est actuellement en garde à vue.
RTL Midi.
Le patron des chasseurs, Willy Schrein, dénonce déjà des propositions stigmatisantes. Les sénateurs veulent en effet leur interdire l'alcool durant la chasse.
C'est, oui, l'une des 30 pistes avancées par la Haute Assemblée pour mieux encadrer la chasse. Alors pourquoi ? La réponse de Sophie Prima, elle est sénatrice des Yvelines et présidente de la Commission des affaires économiques.
Il ne s'agit pas du tout de stigmatiser ou de dire que tous les chasseurs boivent ou prennent des stupéfiants. Il s'agit simplement d'aligner en fait la réglementation sur la chasse avec la réglementation, par exemple, sur le code de la route, puisque nous considérons que ce loisir, pour perdurer, doit répondre à des logiques simples de sécurité, parmi lesquelles, effectivement, l'alcoolémie et les effets de produits stupéfiants ne peuvent pas, voilà, ne peuvent pas être écartés. Comme pour la route, quand vous prenez votre voiture, sous l'emprise soit des stupéfiants, soit d'alcool, évidemment, vous n'avez pas entre vos mains une arme par destination, mais vous avez une voiture qui peut tuer. Eh bien, c'est la même chose, en fait, dans ce cas-là.
Un propos recueilli pour RTL par Marie-Bénédicte Allaire.
Il y a la trajectoire climatique, mais aussi l'urgence sociale. Voilà comment le gouvernement justifie les nouvelles aides pour les Français qui se chauffent au fioul.
Le ministre de l'écologie, Christophe Béchu, qui était l'invité de RTL ce matin, est revenu sur cette aide qui pourrait atteindre 200 euros, mais selon lui, elle ne peut pas être la seule. Le gouvernement planche donc aussi sur une aide pour les granulés bois, ceux qui servent à alimenter les poêles. Plus écologiques, mais victimes de leur succès, comme l'a constaté Hermine Le Clèche dans cette entreprise de Bougival dans les Yvelines.
Les entourants, bonjour.
Le téléphone de ce vendeur de granulés n'arrête pas de sonner. Mais hormis pour les clients habituels, la réponse est la même.
Oui, non, désolé, on n'en a pas.
Le peu de stock qui lui reste est caché sous une bâche à l'arrière de son entrepôt. Car face à la demande, Serge Turlan, à la tête de l'entreprise, doit rationner.
Avec un stock de 10 palettes de granulés, ils sont partis en 5 jours. Et donc, on fait des priorités. C'est-à-dire qu'il y a priorité, évidemment, à mes clients historiques. Et priorité aussi aux clients qui ont que ça comme un appareil de chauffage.
Bonjour, monsieur. Pour cet habitué, c'est le soulagement. Il fait partie des chanceux et peut retirer 20 sacs de granulés.
Ça va me permettre de tenir un mois et demi, deux mois peut-être, s'il fait pas trop froid. Si j'en ai plus, je sais pas comment je vais faire. Là, je sais pas. Moi, je suis pas frileux, mais ma femme et mes gamins, c'est pas dans la même chose.
Mais l'addition est salée, car en un an, le prix a doublé.
La palette, elle me faisait 380. Donc 380, il y avait 65 sacs. Et là, j'ai 20 sacs pour 210.
L'entreprise attend de nouvelles livraisons dans les prochains jours.
À la prochaine.
Reportage RTL signé Hermine Le Clèche. Le pic de l'inflation est encore devant nous. Il devrait être atteint d'ici début 2023, selon le gouverneur de la Banque de France qui était sur RTL ce matin. L'inflation qui frôle déjà les 6% sur un an. Et puis plus d'un millier de vols annulés aujourd'hui dans toute la France en raison de la grève des aiguilleurs du ciel. Ils réclament de meilleurs salaires, des embauches et menacent de faire à nouveau grève à la fin du mois s'ils n'obtiennent pas d'avancée, cette fois sur 3 jours du 28 au 30 septembre.
Les Nations Unies veulent envoyer une équipe à Izium en Ukraine après la découverte de charniers dans cette ville libérée des forces russes.
Kiev assure en effet avoir découvert quelques 450 tombes près de cette ville stratégique et tout juste reprise aux forces russes, Émilie Bojard.
Oui, des fosses communes découvertes par les soldats ukrainiens dans une forêt à la périphérie d'Izium. Des centaines de corps de civils et de militaires. Selon la police locale, les circonstances de leur décès sont multiples. Certains ont été exécutés, d'autres ont l'air d'avoir été victimes de bombes ou de tirs d'artillerie. Les identifications sont en cours. Le pouvoir ukrainien accuse la Russie d'être à l'origine de ce charnier. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Nous voulions que le monde sache ce qui se passe vraiment, ce que l'occupation russe a engendré. Boutcha, Mariupol et maintenant Izium. La Russie sème la mort partout derrière elle et elle sera tenue responsable de tout ça.
Et à Kharkiv, la police locale vient d'annoncer qu'une dizaine de salles de torture ont été découvertes.
Émilie Bojard du service étranger d'RTL. Les violentes intempéries qui ont frappé le centre de l'Italie ont fait au moins 7 morts la nuit dernière. D'après la presse italienne, 40 cm de pluie sont tombés en 2 heures dans la province d'Ancône, quantité qui tombe habituellement en 6 mois.
RTL Midi. C'est le plus grand succès commercial de l'histoire du cinéma. La suite d'Avatar, c'est pour bientôt.
En décembre, pour être précis. Mais Stéphane Boutsock, qui n'a pas voulu attendre Noël, a déjà, lui, pu voir ce matin les toutes premières images de ce deuxième volet. Alors, dites-nous, Stéphane, est-ce que la si longue attente, 13 ans hein, depuis la sortie du premier Avatar, est-ce que cette attente valait le coup ?
Quand vous me connaissez, je suis plutôt un garçon mesuré. Je vais vous dire que les 11 minutes de film que j'ai vu ce matin, des scènes pris dans le résultat final, c'est ce que j'ai vu de plus beau de ma vie en termes d'effets spéciaux. Ce qui va arriver sur nos écrans le 14 décembre va juste être hallucinant. C'est-à-dire que je suis incapable de vous dire qui est le personnage réel, qui est le personnage numérique, quel est le vrai décor, quel est le faux. Ça se passe sous l'eau beaucoup, puisque ça s'appelle La Voix de l'eau, cette suite. Ça va toujours se passer sur Pandora, cette planète. On est 10 ans après. Les scènes aquatiques, les animaux aquatiques, la faune aquatique, c'est juste absolument dingue ce que j'ai vu. On sait que James Cameron, c'est un génie de la technique. Il a encore inventé de nouvelles caméras, de nouveaux dispositifs. Les logiciels qui font les effets spéciaux progressent tous les ans. Et là, je peux vous dire qu'on va être totalement au top de ce qu'on peut demander dans ce rayon-là. Ça sort donc le 14 décembre. On retrouvera les acteurs du numéro 1, Sigourney Weaver notamment. Mais pour ceux qui n'ont jamais vu Avatar le 1 sur grand écran, il y a toute une génération qui ne l'a vu qu'en DVD. Le film ressort la semaine prochaine au cinéma en version restaurée.
14 décembre en France ou dans le monde entier ?
Il faut le voir en 3D.
Alors, moi, je l'ai vu en 3D. Je pense que ça vaut le coup. Et honnêtement, les lunettes sont plus gênantes du tout. Et sachez qu'on en a jusqu'en 2028 de cette histoire, puisqu'il y a 3 suites au total au premier numéro.
14 décembre en France ou dans le monde entier ?
Ça sort d'abord chez nous. Le 14 décembre, on sera un des premiers pays à le voir, avant les États-Unis.
Et c'est le plus grand succès mondial ? Je pensais que c'était Titanic, le plus grand succès mondial.
Non, mais il a battu son propre record, Cameron.
Merci beaucoup Stéphane Boutsock, la météo sur Terre cette fois. On vous retrouve Claire Delorme. Du soleil donc.
Oui, et surtout à l'ouest où les nuages vont finir par se morceler, laissant donc apparaître de très belles plages d'éclaircies. Donc ça se passera surtout vers l'arc atlantique où ça sera le plus ensoleillé, et puis aussi vers la Bretagne, vers la Normandie, vers les Pays de la Loire, vers le centre Val-de-Loire, jusque vers la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Il fera également très beau en Méditerranée, mais au prix quand même de beaucoup de ventre Corse et continent, avec des rafales à plus de 100 km/h, donc on reste prudent. Encore un petit peu d'instabilité résiduelle sur le quart nord-est, avec beaucoup de nuages, quelques averses par-ci ou là, et surtout aussi un ciel bien bouché près des Pyrénées. Les températures, par contre, en nette baisse, il va falloir ressortir les trenches et les manteaux, puisque le mercure ne va pas réussir à décoller au-delà des 21 degrés sur une large moitié nord. 26 degrés, bon, quand même pour la moitié sud, et quand même jusqu'à 27, voire 29 degrés, là encore près de la Grande Bleue. Merci Claire.
Dans un instant, un des acteurs préférés des Français, Thierry Lhermitte, mais nous ne parlerons pas cinéma ou théâtre. Thierry Lhermitte appelle à financer la recherche contre Alzheimer. A tout de suite.
RTL Midi. Céline Landreau et Pascal. RTL Midi.
Pascal Pro et Céline Landreau.
Mon père, il me manque. Ces longs moments pendant lesquels je refaisais le monde avec lui pour l'aider à se souvenir.
Yvonne, c'est ma mamie. Avec la maladie, ses passions se sont envolées. Alors j'essaie de lui rendre visite le plus souvent possible pour qu'elle se sente moins seule.
Mercredi prochain, le 21 septembre, ce sera la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Un grand appel aux dons afin de financer les programmes de recherche. Une campagne de soutien est donc lancée aujourd'hui. Et le groupe M6 est partenaire de la Fondation pour la Recherche Médicale. Vous pouvez évidemment faire des dons sur frm.org ou alors par téléphone, c'est le 92 300. Pour en parler, nous sommes avec un des ambassadeurs de l'association. Bonjour Thierry Lhermitte.
Bonjour.
Ça fait 15 ans maintenant que vous êtes le parrain de la Fondation pour la Recherche Médicale. Ouais. Est-ce que vous avez pu voir les avancées concrètes depuis toutes ces années ?
Il y a des avancées très nettes dans la compréhension de la maladie, dans le diagnostic, mais malheureusement pas encore dans le traitement. Alors il y a des traitements symptomatiques, mais surtout ce qui a avancé, c'est le diagnostic. Ça veut dire que même si on peut pas guérir la maladie, ben on peut améliorer l'état des patients, se préparer et ralentir le développement de cette maladie qui touche, faut le rappeler, pratiquement 1 million de personnes en France. Et puis si on compte les aidants, ben ça fait 3 millions de personnes qui sont affectées par la maladie. Voilà. Et attendez, j'ai une petite précision par rapport à ce que vous avez dit. Sur 92 300, on peut envoyer un SMS. C'est pas un téléphone, c'est un SMS. Et si on veut agir contre Alzheimer, on envoie le mot « agir » et 10 euros sont prélevés sur votre facture téléphonique.
Voilà. Thierry Lhermitte, vous êtes un parrain très investi. Vous visitez régulièrement des laboratoires afin de voir les chercheurs, de les comprendre. Est-ce que vous auriez imaginé faire ce métier ?
Oh, peut-être, écoutez, franchement, j'en sais rien. Je crois que j'étais trop flemmard quand j'étais jeune, donc je pense pas que j'aurais fait. Mais par contre, aujourd'hui, c'est un plaisir et un honneur de rencontrer ces chercheurs qui font un boulot extraordinaire. Et ça me passionne à chaque fois que je vais dans un laboratoire.
Est-ce qu'ils vous disent, est-ce qu'ils peuvent imaginer quand il y aura un traitement? Est-ce qu'ils peuvent vous dire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Est-ce non. que c'est possible?
Écoutez, non, on ne peut pas le dire. Non. Honnêtement, c'est terrible, hein, mais on ne peut pas le dire. Alors, en revanche, je vous dis, il y a vraiment des directions qui... La compréhension de la maladie, le diagnostic, l'inflammation du cerveau qui augmente la vitesse de propagation, ce qui est nouveau, le microbiote intestinal, le métabolisme voilà, dans le cerveau. Et puis, vous savez, on en a entendu beaucoup parler, les vaccins ARN. Voilà, ça fait partie des pistes pour Alzheimer. Voilà.
Quels sont les signes avant-coureurs qui doivent alerter une personne ou son entourage qu'un Alzheimer est possible?
Les pertes de mémoire et puis la perte de repères dans l'espace. Voilà, ça c'est un des premiers, perte de repères dans l'espace, c'est un des premiers signes qui doit alerter. Voilà, on ne sait plus trop où on est, on ne rappelle plus trop du chemin, etc. Et puis il faut aller consulter parce qu'il y a plein d'autres raisons d'oublier des trucs qui ne sont pas Alzheimer et qui ne sont pas du tout destinés à se développer. Il y a des périodes, il y a des circonstances, il y a toutes sortes d'autres circonstances. Donc il faut aller voir un médecin quand on a un doute. Ouais.
Et ce qui est certain, c'est que plus la prise en charge est rapide, plus c'est facile d'accompagner le malade et son entourage. Parce que vous le disiez, il ne faut pas oublier tous ces aidants qui sont là au quotidien.
Voilà, et qui ne savent pas forcément comment s'y prendre. Donc, dès qu'on a un diagnostic, déjà, on peut faire ce qu'il faut pour. Et puis, ça veut dire stimuler son cerveau tout le temps pour faire des nouveaux apprentissages. Et Alzheimer, en gros, on s'en aperçoit que quand tous les secours ont été épuisés, voilà, toutes les voies de secours ont été épuisées, le cerveau est très plastique. Donc, quand on n'arrive pas à faire quelque chose, on le fait avec une autre partie du cerveau. Et puis, celle-là, elle commence à plus marcher. Alors, il y en a une autre. Puis, quand il y en a plus d'autres, les symptômes apparaissent. Donc en fait, plus on a de voies de secours, plus on a de circuits dans le cerveau qui sont prêts à apprendre ou qui ont déjà appris, plus les symptômes vont arriver tard.
Vous diriez que grâce à la communication qui est faite autour de la maladie, c'est aujourd'hui moins tabou de parler d'Alzheimer?
Il faut pas que ce soit tabou parce que non, il faut faire quelque chose, il faut aider la recherche pour qu'on avance et qu'on trouve, et puis faut aider les gens et les gens qui aident les gens. Voilà, absolument, il faut pas que ce soit tabou.
Et pour aider la recherche, justement, on le rappelle, on peut faire un don sur le site internet frm.org ou alors en envoyant par SMS agir au 92 300 et ce sera un don immédiat de 10 €. Merci beaucoup Thierry Lhermitte.
Merci beaucoup à vous.
Merci à vous et merci de porter effectivement cette voix et cet engagement. Dans une seconde, les adieux de Serge Labat. Laissez-vous tenter, c'est dans une seconde.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL. Laissez-vous tenter, midi.
La culture, vous savez, se met à table tous les jours avec Laissez-vous tenter et rencontre exclusive avec un monument de la chanson française, grâce à vous, Steven Bellery. Bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour Steven. Serge Lama annonce ses adieux à la chanson et c'est à votre micro. Son ultime album s'appellera Aimer et il sort dans 3 semaines.
Ouais, ce sera le 24e de sa discographie et le dernier. À bientôt 80 ans, Serge Lama range son micro définitivement. L'an dernier, on se souvient, le chanteur m'avait annoncé qu'il ne reprogrammerait pas sa tournée d'adieu. Aujourd'hui, il tourne la page de la musique. Serge Lama n'enregistrera plus d'album à l'avenir.
Il y a un moment où les choses s'arrêtent. Il faut le savoir vieillis, que mon corps me fait beaucoup souffrir, j'ai des problèmes physiques. C'est-à-dire que tous les jours j'ai mal, tous les jours je souffre, je dors mal, pour n'importe quoi, c'est dur. Et que donc, il y a un moment, il faut savoir s'arrêter plutôt que d'être arrêté. Alors j'ai décidé que c'était fini, et c'est mon dernier album.
Mais ça a été une décision difficile à prendre ou pas?
Forcément, il y a quelque chose qui fait mal. Mais en même temps, c'est le respect du public. C'est-à-dire que je ne veux pas me montrer sur scène dans des conditions qui ne seraient pas optimales. J'ai eu la chance de pouvoir chanter cet album déjà, à près de 80 ans. Parce que moi, j'étais quand même un homme de voix, donc c'est compliqué d'être à la hauteur de ce qu'on a été. Donc maintenant, je pense que c'est bien que ça soit le dernier round. C'est fini, maintenant je pense que j'y penserai plus parce que c'est fait.
Il y a une forme de deuil dans cette décision ou pas?
Non, il y a une décision.
Il y a beaucoup d'émotions dans votre entretien. Il y a un peu de tristesse aussi et de mélancolie, disons-le, des adieux et un nouveau disque quand même, dont le premier extrait est dévoilé aujourd'hui, Steven.
Oui, la chanson qui donne son nom au disque, Aimer. Question à Serge Lama. Avec le recul, qu'est-ce qui est le plus beau, aimer ou être aimé?
Maintenant, c'est être aimé. J'étais pas un type très marrant pour les dames, hein. Faut dire la vérité, parce que j'ai pas été très fidèle dans ma vie. J'étais un infidèle. Et pourtant, j'aimais la personne tout le temps avec qui j'étais. C'était plus fort que moi, parce que les femmes étaient plus fortes que moi. On peut pas s'imaginer comment les femmes arrivent. Comment tout d'un coup, vous êtes absolument pas sollicité par les femmes, et tout d'un coup, elles arrivent toutes. Vous pouvez pas savoir ce que ça fait. Ça peut vous donner de la tête. Quand j'ai été privé, moi, toute mon adolescence, contrairement à des copains qui avaient du succès auprès des jeunes filles, moi pas. Alors oui, quand l'heure a sonné, ça a été plus fort que moi.
C'est plus haut que la tour Eiffel, c'est des cœurs, des corps de Babel qui se hissent vers l'éternel, ça vous fait désirer le ciel. Aimer.
Aimer, c'est la nouvelle chanson de Serge Lama, on écoute dès à présent.
Indiscret, RTL, Steven, et hasard complet, il faut le dire. Dans son prochain album, Serge Lama déclare tout son amour à Roger Federer, lui aussi futur retraité, puisqu'il a annoncé hier la fin de sa carrière.
Ouais, la chanson s'appelle « Le geste de Roger Federer ».
Pour moi, quoi qu'il arrive, je pense qu'il n'y aura jamais un joueur qui jouera comme Roger. Cette classe, cette élégance d'ailleurs, une maestria, une façon de danser sur le court, de bouger les jambes, le petit jeu de jambes, c'était une merveille. Enfin bon, bref, j'aime Roger. Ça me démangerait de le rencontrer. C'est un appel du pied un peu.
Mais qui donc est cet homme qui, ses petits pas, son élégance, ont fait du tennis une danse. Ah, comme je voudrais, ma belle, que ce génie soit immortel, pour que vibre dans la lumière tous les gestes de Roger Federer.
C'est un petit cadeau en avant-première pour les auditeurs d'RTL Midi, le geste de Roger Federer de Serge Lama.
Serge Lama disait souffrir énormément. On rappelle qu'il a été victime d'un terrible accident de la route en 1965 à l'âge de 22 ans. Depuis, sa jambe droite soutient son corps. Steven, vous avez donc évoqué avec Serge Lama la question de la fin de vie.
Oui, Serge Lama qui dit souffrir au quotidien. A-t-il un avis ? Est-il en faveur de l'euthanasie ? Son récent mariage avec une femme plus jeune semble avoir influencé son opinion.
Mon avis est truqué, parce que je serais assez pour une solution de cet ordre-là si j'étais tout seul. Mais vu que je suis avec Luana, j'ai pas envie de penser à des choses comme ça. D'ailleurs, je me trouve encore assez potable pour le courant de l'existence. Mais oui, je trouve que c'est tout à fait envisageable. Aussi, c'est une chose qui va pas avec ce que je pense. Moi, je suis un croyant. Ça va pas avec ma nature profonde. Moi, je ne pense pas qu'on s'en va et puis que c'est fini. Je pense qu'il y a quelque chose. On appelle ça Dieu, on appelle ça comme on veut. Mais je veux dire que je ne pense pas que ça s'arrête. Alors bon, c'est vrai que si j'arrivais à des douleurs, mais à un niveau où ça soit la catastrophe totale, je demanderais la permission à Luana, ce qui ne serait pas un cadeau à lui faire. Les gens sont mécréants, ils croient pas en l'avenir. Voilà, il faut croire un peu en l'avenir.
Le sourire de Serge Lama et l'avenir, c'est Aimer, c'est le nom de son nouvel et ultime album. Il sortira le 7 octobre.
Merci beaucoup Steven Bellery pour ses confidences recueillies auprès de Serge Lama.
Merci pour ce moment et je pense que les auditeurs auront à cœur de parler de Serge Lama et pourquoi pas de réécouter ses plus belles chansons. Dans quelques instants, c'est vous qui prenez la parole au 32-10.
Céline Landreau, Pascal Praud,
RTL Midi jusqu'à 13h.